I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. C'est moi qui l'ai. Il me fait trop rire. Il est en pleine forme, il sourit tout le temps. Mais pourquoi vous avez toujours cette joie de vivre?
C'est trop mignon. Je ne vais pas le
cacher. Oh, c'est génial.
Je ne vais pas te cacher.
Je ne vais pas le cacher.
Marc Menon, lui, il a toujours quelque chose à dire. Ça va, mon Marc? Votre voiture est en forme, elle va bien?
Oui.
Bien. Donc, tout va bien. Allez, l'info du soir.
Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan s'est exprimé cet après-midi, trois jours après la blessure par balle au thorax de Kenji Girac. Le chanteur dit avoir voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne. Des analyses ont permis de confirmer que Kenji Girac était fortement alcoolisé et qu'il avait consommé de la cocaïne. Un couvre-feu imposé pour les mineurs de moins de 13 ans à Penmirabeau, près de Marseille. La mesure sera effective dès ce soir et jusqu'au 31 août. Des couvre-feux ont également été instaurés à Nice, à Béziers ou encore à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et puis des primes seront accordées aux conducteurs de métro et de RER pour les Jeux Olympiques de Paris. La direction de la RATP propose 1600 euros pour ceux qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre prochain. Des primes qui pourront aller jusqu'à 2500 euros pour certains salariés, cher Christian.
Merci beaucoup Simon Guélin. Et au sommaire ce soir, quelle est la place de la nation dans la vision du monde d'Emmanuel Macron? 7 ans après le discours de la Sorbonne, le président de la République s'est de nouveau exprimé à l'université aujourd'hui. Il est parti d'une Europe transformée par le Brexit, le Covid, la guerre avec la Russie pour proposer une Europe unie, efficace, qui renforce sa souveraineté. Oui, mais la France dans tout cela? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Souveraineté européenne, défense européenne, maîtrise européenne de ses frontières. Il faut un sursaut de l'Europe si elle ne veut pas mourir. Face à une Europe qui change, Emmanuel Macron déclare qu'il va falloir assumer des changements de paradigme. Et y répondre par la puissance, la prospérité et l'humanisme. Quel changement de paradigme précisément? L'analyse de Guillaume Bigot. Hier était la journée de commémoration annuelle du génocide arménien par les Turcs. Le 24 avril 1915, 600 notables arméniens sont assassinés à Constantinople sur ordre du gouvernement. Ce génocide coûtera la vie à environ 1 200 000 personnes, c'est-à-dire les deux tiers des Arméniens de l'Empire ottoman. Marc Menon raconte. Quelques phrases d'Omar Sy dans L'Obs ont choqué. Le comédien déclare, je cite, « Ceux qui nous empêchent d'avancer sont ceux qui veulent conserver leur monde dépassé. Ils sont en train de vieillir, ils sont à l'agonie. La haine qu'on entend, ce sont les derniers râles de ceux qui appartiennent à une autre époque. Alors, je dis que c'est un mauvais moment à passer. Je suis optimiste. » Pourquoi ces propos choquent-ils? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, si les questions bioéthiques redevenaient des questions politiques, la polémique autour des propos de Marion Maréchal sur la GPA ramène les questions bioéthiques au cœur du débat public. Est-il permis sur ces questions de ne pas embrasser le point de vue progressiste ou même de confesser quelques réserves devant ce que l'on présente comme des évolutions fondamentalement positives? Les questions et les réponses avec Mathieu Bock-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires du soir. On commence, c'est parti. Bonsoir à tous. Une question piège ce soir pour commencer. Et je sais que vous allez me faire la tête, mais avez-vous envie de parler de Kenji Girac ce soir? Oui ou non? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Moi, je suis les conseils du gouvernement qui nous invitent à ne pas surexploiter médiatiquement les faits divers. Donc, je laisse ça à d'autres chaînes qui sont spécialisées là-dedans. À chacun son travail.
Bonne réponse.
Il m'a piqué ma répartie.
Non. Vous devez répondre.
Ah, donc je dois trouver autre chose. Alors, trouvons autre chose. C'est quand même curieux parce que c'est vraiment pas, pour le coup, un fait de société. C'est un fait divers. Voilà, de quelqu'un qui probablement est très... peut-être déprimé s'il a tenté de porter atteinte à ses jours. Mais c'est un phénomène absolument privé et c'est simplement son statut de vedette. Mais ça pas, à mon avis, il n'y a pas de phénomène de société derrière.
Eh bien, s'il y a un phénomène de société, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui ne part de rien et qui soudain est propulsé à la une, qui devient une star, qui devient l'effigie, le point de repère pour des jeunes. Il incarne la joie, c'est la chanson, c'est le moment où on enflamme les cœurs. Et ce personnage tombe dans la dépression, en oublie même le sens de la paternité et fait mine de tenter de mettre fin à ses jours devant son petit enfant. Eh bien ça pose beaucoup de questions sur notre société, sur une forme de matérialisme où l'homme n'existe plus dans sa splendeur, avec un côté âme qui ferait plaisir à notre Charlotte.
Non, mais les phénomènes de société, potentiellement, le premier, c'est quand même l'intérêt qui est porté de manière naturelle au fait divers qui n'est, en l'occurrence, qu'un fait divers. Ça a toujours passionné tout le monde, surtout quand c'est une star, et surtout quand c'est Kenji Girac qui est...
Il est très aimé.
Extrêmement apprécié. Et la deuxième chose qui pourrait se dessiner, notamment on l'a vu dans les propos et les détails, on va dire, de cette affaire, c'est la consommation de cocaïne qui, là en l'occurrence, se fait par une star. Et on parle souvent du trafic de cocaïne et de ses conséquences. Et on a essayé de parler de la consommation de ces drogues-là. Évidemment, il y a des raisons qui sont probablement spirituels au sens profond du terme, c'est-à-dire de dépression en l'occurrence, mais la consommation tout court est un phénomène de société indiscutablement. Oui.
Des mélanges alcool, drogue, ça nous pose beaucoup de questions.
Ne soyez pas trop dur avec lui.
Ah, je ne suis pas dur. Non, ce n'est pas lui. C'est ce qu'il représente sur les interrogations que nous devrions avoir par rapport à notre quotidien, comment enchanter notre existence.
Emmanuel Macron prononçait aujourd'hui à la Sorbonne son grand discours sur l'Europe. Mathieu Bock-Côté, il était attendu. Il a permis au président de la République de préciser où en est rendue sa réflexion européenne. Alors, première question, posons-nous la question, où en est rendu l'européisme d'Emmanuel Macron ?
Alors, vous avez raison de dire que c'est un discours qui était attendu. C'est l'avantage d'avoir quelquefois des médias qui nous sont favorables. On nous présentait ça comme le discours qui permettait l'entrée en campagne du président de la République, le discours qui pouvait tout changer, le discours qui nous permettrait de nous émerveiller devant sa puissance oratoire, la grandeur de l'ampleur de sa vision historique, sa maîtrise technique des dossiers. Les commentateurs étaient là généralement pour nous inviter à l'admiration de ce discours qui se voulait historiquement historique. Bon, alors, ça c'était la mise en scène. Certains ont été satisfaits, d'autres déçus, je ne tranche pas, mais cherchons à voir ce que nous a dit le président de la République, qui a joué un double rôle, j'insiste. D'un côté, il s'est voulu le visionnaire de l'Europe telle qu'elle se projettera dans le prochain siècle, et de l'autre côté, il n'a pas résisté à la tentation du conseiller technique qui montre qu'il maîtrise chaque dossier technique mieux que ses conseillers ne pourraient les maîtriser. Un discours un peu long aussi, je me permets de le dire. Vous savez, les discours fleuves, quelquefois, ça peut emporter ou endormir selon la préférence des uns ou des autres. Ensuite, sur le fond des choses, qu'est-ce que c'était ce discours bilan d'abord? Emmanuel Macron nous dit « Je suis là depuis 7 ans et nous avons transformé fondamentalement l'Europe. C'est un succès. Nous avons réussi. Il y a une Europe qui était inimaginable il y a 7 ans, qui est aujourd'hui non seulement imaginable, mais concrète. Il nous parle d'une Europe de la défense en partie, mais aussi d'une Europe de la santé, d'une Europe de tous les domaines, en fait. Ce qui est fascinant, c'est que tout doit se conjuguer, tout doit s'écrire à l'encre européiste. Tout doit se conjuguer dans le langage européen. Donc, quelle que soit la question, je dirais de manière imagée, du camping à l'arme nucléaire, en dernière instance, l'Europe a quelque chose à dire sur les enjeux de société. Mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'il nous dit « Regardez, j'ai réussi ». Qui aurait pu imaginer cet emploi? C'est ce qu'on se disait hier, en soit dit en passant, que de son point de vue, c'est une réussite. De son point de vue, nous, les Français, les Européens, sont plus européistes que jamais. La France est plus accrochée que jamais au destin de l'Europe. Donc, il dit « Nous avons réussi à fédéraliser ». Ce ne sont pas ces mots, mais c'est quand même la réalité. « Nous avons réussi à accélérer la marche du fédéralisme européen. L'Europe va toujours plus loin ». Il dit même avec bonheur « Les souverainistes ont perdu ». Pourquoi ont-ils perdu? Parce que qui propose aujourd'hui d'en finir avec l'euro? Qui propose d'en finir avec l'Europe, une forme de Brexit ou de Frexit? Personne. Donc on a gagné. Même nos adversaires jouent sur notre terrain désormais. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, évidemment, bon, c'est un homme qui pointe une direction, mais il dit « on n'a pas été assez loin ». Et le tout début de son discours, c'est une reprise de ce qu'on a appelé hier le rapport Verhofstadt, c'est-à-dire cette idée d'une Europe qui... quelle serait la prochaine étape? Il nous dit « on n'a pas été capable de démocratiser l'Europe ». Mais il faut toujours avoir un petit lexique pour savoir ce qu'on entend par là. Démocratiser l'Europe, pour Emmanuel Macron, c'est avoir une Europe qui soit plus fédérale, avec un pouvoir politique plus fort au niveau européen, avec une capacité de décision européenne plus forte encore qu'aujourd'hui. Donc, globalement, c'est l'idée d'avoir un président européen, d'un exécutif européen, d'une défense européenne, d'une politique étrangère européenne, donc d'un État européen. Et Emmanuel Macron, alors, j'insiste pour dire qu'il ne le dit pas toujours avec ses mots, il ne veut pas provoquer. Mais il nous dit « dans les prochaines années, le projet européen devra se diriger dans cette direction ». Pour les prochaines années, il va nous falloir toujours plus d'Europe politique. Donc ça, c'est assez important. Et d'ailleurs, il le dit, hein, c'est d'une manière ou de l'autre les circonstances, parce que l'Europe s'est construite, nous dit-il, il parle de la COVID, il parle ensuite de l'Ukraine. L'Europe se construit à coup de crise. Donc, il y a presque une théorie de l'action politique qui vient avec ça. Quelle que soit la crise que vous avez devant vous, l'Europe sera la réponse. Vous avez une invasion de sauterelles, Europe. Vous avez une guerre, Europe. Vous avez de la pluie, Europe. Vous manque de pluie, Europe. Donc, l'Europe est la réponse. C'est la matrice dans laquelle on doit intégrer tous les problèmes politiques. Et quelle que soit la réponse, il faudra avoir un transfert de responsabilité vers Bruxelles. Il nous le dit assez clairement. Donc, l'Europe se démocratise en se dénationalisant. Il faut comprendre le raisonnement. On est dans une logique souvent ici sur le mode patriote à l'ancienne. Démocratie et nation vont ensemble. Emmanuel Macron, lui, dissocie les deux termes. Plus on veut démocratiser, plus on doit européaniser, plus on doit dénationaliser. Je pense que c'est assez important. D'ailleurs, il nous parle aussi de l'Europe et de ses frontières. Et là, c'est intéressant, il nous dit que l'Europe peut mourir. C'est un constat partagé par plusieurs. On pourrait dire que l'Europe peut mourir. Normalement, on assimile ça à la submersion migratoire. C'est-à-dire que les peuples européens deviendraient minoritaires chez eux. Ce n'est pas l'enjeu d'Emmanuel Macron. Lui, il dit que l'Europe peut mourir comment? L'enjeu principal, c'est la Russie. Il y a aussi l'émergence des États civilisationnels. Et nous, pauvres petites nations européennes, nous sommes trop divisés pour affronter le monde qui vient. Donc, comment pouvons-nous mourir si nous ne nous fédéralisons pas? On revient avec ce raisonnement. Donc, l'Europe mourra si elle ne se fédéralise pas. Il dit l'Europe a des frontières. Elle a des frontières, c'est intéressant. Mais il n'est pas capable de dire exactement quelles sont ses frontières. Ça, c'est plus amusant. Parce qu'il dit, bon, il y a l'Union européenne, mais il y a aussi des États qui ne sont pas dans l'Europe, mais qui ont vocation à rejoindre l'Europe. L'Ukraine, la Moldavie. OK? Mais est-ce que les frontières de l'Europe, en ce moment, sont des frontières projetées? Parce qu'ils seront des nôtres demain, on fait comme s'ils sont des nôtres déjà aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une logique d'annexion. C'est-à-dire on annexe juridiquement et symboliquement et idéologiquement des pays qui ne sont pas déjà européens de l'Union européenne, en disant, mais c'est la nouvelle frontière. Il dit, c'est la communauté politique européenne qui se construit. Alors ça, c'est... La conception des frontières est approximative. Je note qu'il est beaucoup moins sévère quand il est temps de parler de la défense des frontières, justement par rapport au sud qui remonte vers le nord. Ce n'est pas son sujet. Il ajoute, et ça c'est intéressant, il faut un imaginaire européen. Ça pourrait être un vrai sujet. Il dit les Européens ne doivent plus rêver comme des Américains ou comme des Asiatiques. Mais alors la question qui se pose, c'est quel est le rêve européen dont il nous parle? Est-ce que le rêve européen, les vieilles légendes européennes, on pourrait dire l'imaginaire de Tolkien de manière... Est-ce qu'il nous parle de ça? J'en doute. J'ai plutôt l'impression que le rêve dont il nous parle, c'est un rêve où l'Europe est le lieu de projection d'une Europe qui devient mondialiste. C'est presque une forme de fantasme transhumaniste. Envers la fin du discours, il y avait des éléments qui tournaient autour de cette espèce de maîtrise de l'homme, une espèce de côté démiurgique. Donc, quel est le rêve européen dont il nous parle? Bon, c'est intéressant de le savoir. Et comment va se faire l'Europe? Et ça, je termine cette première partie ici. Et là, c'est l'inversion du rapport au militaire. Guillaume va y revenir. Le militaire va permettre de faire l'Europe. Donc, il faut créer une souveraineté militaire européenne. Comment ça se fait? Ben, la France, il le dit clairement. L'instrument de défense premier de la France, qui est l'arme nucléaire, doit être offerte en partage à l'Europe pour permettre sa fédéralisation, pour permettre la création d'une souveraineté européenne. Donc il nous dit, la souveraineté européenne, on n'y croyait pas, maintenant on y croit, et la France va être capable de porter cet idéal, porter ce rêve, et l'instrumentalisation de la question militaire pour créer un pouvoir politique européen, tel est l'horizon des prochaines années. Donc c'est l'instrumentalisation du militaire en fonction d'objectifs politiques. Je pense avoir ici résumé ce qu'on pourrait appeler sa vision, infiniment plus complexe, j'en conviens, mais je pense que c'est la trame de fond.
Quelle est la place de la nation dans la vision du monde d'Emmanuel Macron?
Ah ben ça, c'est ce que je me suis demandé pendant tout le long du discours. C'est-à-dire que, parce que Emmanuel Macron, j'en doute pas, mais ça aime la France, comme Viktor Orban aime la Hongrie, comme Mme Thatcher aimait la Grande-Bretagne. Je ne doute pas qu'il aime son pays au sens premier. Mais la nation, ce n'est pas simplement aimer un terroir. Ce n'est pas simplement aimer quelque chose comme des traditions, une forme de coutume qu'on peut apprécier. Il va falloir prendre au sérieux Emmanuel Macron, je crois. Certains ne le font pas. En 2017, lorsqu'il dit « il n'y a pas de culture française », on en a beaucoup parlé, on est revenu sur ça, on sait qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit finalement « la France comme nation n'est pas un cadre adéquat ou pertinent pour les temps présents ». Mais pas seulement la France, l'Italie non plus, la Roumanie non plus. Faites la liste de tous les pays européens. La nation est un cadre périmé. La nation est une structure désuète. La nation est une structure paralysante. La nation nous enferme dans le monde d'hier et nous empêche d'accéder à la puissance du monde de demain. Donc là, on est dans une forme d'inversion du raisonnement. Il nous dit un changement d'époque. Je pense qu'il a dit au moins 2 ou 3 milliards de fois qu'il y avait un changement de paradigme. Donc il dit qu'on doit redéfinir les fondements de notre action politique. Il faut prendre ça au sérieux. La nation française appartient au monde d'hier, pour lui. La nation française, c'est une étape dans la construction de la conscience européenne. La nation française, c'est un moment qui a compté dans l'histoire, mais ce n'est plus le moment qui est le nôtre aujourd'hui. Dès lors, il faut se projeter vers autre chose. Alors, comme je dis, je ne doute pas qu'il aime la littérature française, la philosophie française, la gastronomie française, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un traitement de la patrie sur le mode mélancolique. C'est le traitement folklorique, c'est-à-dire j'aime bien les souvenirs de ma grand-mère, j'aime bien les souvenirs, j'aime bien les goûts de mon enfance, j'aime bien tout ça. Mais la nation n'est plus le cadre pertinent pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il l'a dit assez souvent, on doit finir par le croire. Et dans cette logique, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs, par exemple Michel Onfray, lui reprochent souvent en disant « vous voulez déconstruire la France, détruire la France », dit-il même. Mais dans la perspective d'Emmanuel Macron, c'est autre chose. Il faut libérer les Français de cette structure désuète qu'est l'État-nation indépendant pour permettre aux Français de se projeter pleinement dans l'Europe à venir et d'être, je pense que c'est sa logique, le noyau fondateur du peuple européen à venir. Parce qu'on dit « il n'y a pas de peuple européen au singulier », il y en a plusieurs, mais un jour, il faudrait qu'il y ait un peuple européen. Mais qui en sera le noyau? On comprend que dans son esprit, la vocation quasi messianique du peuple français, c'est d'être le noyau du peuple européen à venir, sur lequel il pourra avoir un référendum. Imaginez l'État-nation transposé au niveau européen. Je crois que c'est son rêve à lui. C'est son rêve européen. Je ne sais pas si d'autres rêvent de ça avec lui, mais c'est ce que je comprends de la trame de fond de son propos.
Dernier mot, qui fait obstacle à cette vision d'Emmanuel Macron dans l'Europe?
Toujours les mêmes, c'est l'Europe de l'Est. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est qui ne se passe pas en Europe de l'Ouest? Prenez des peuples qu'on a tendance à regarder de haut, hein. Les Tchèques, les Slovaques, les Slovènes, les Roumains, les Polonais, tout ça. Qu'ont ces peuples en commun? Ils ont en commun l'expérience de la domination subie. Ils ont l'expérience de la perte de l'indépendance un jour. Ces peuples savent ce que ça veut dire ne pas être indépendant. Ces peuples ont su dans l'histoire, on leur a dit très souvent, sacrifiez votre indépendance, ça vaut plus la peine, la nation n'est plus le cadre nécessaire, embrassez l'Empire austro-hongrois, embrasser l'Union soviétique, embrasser un destin nouveau ou impérial en fait. On a toujours expliqué à ces nations, les petites nations d'Europe de l'Est, donc les Hongrois, les Slovènes, prenez tous ces peuples, on leur dit, votre cadre n'est plus pertinent. Votre différence identitaire est folklorique. On vous comprend d'aimer les souvenirs de vos ancêtres, mais votre État-nation n'est plus de ce monde. Et quand ils ont voulu regagner leur indépendance, il ne faut pas l'oublier. Hein. Par exemple, quand la Tchécoslovaquie s'est décomposée, quand la Yougoslavie s'est décomposée, quand l'Empire soviétique s'est décomposé, on leur disait « mais vous êtes tellement dans le tribalisme ethnique, vous êtes tellement réactionnaire à vouloir ainsi restaurer une indépendance perdue qui appartient au siècle d'hier ». Eh bien, ces petites nations d'Europe de l'Est, qu'on trouve toujours un peu folkloriques, elles ont dit non, l'indépendance c'est plus important que tout, l'indépendance c'est plus important que tout le reste, et c'est à partir de cette indépendance qu'on pourra parler d'égal à égal, mais nous n'acceptons pas de la sacrifier, et plus encore, nous savons le lien intime et indépassable entre souveraineté et identité. Alors les petites nations d'Europe de l'Est ont résisté au début du 20e siècle à la logique impériale, l'Empire austro-hongrois, elles ont tout fait pour s'en dégager. Elles ont résisté à l'Empire communiste, à l'Empire soviétique. Aujourd'hui, elles résistent à l'Empire européiste. Peut-être que les Hongrois, les Slovènes, les Polonais, les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens ont quelque chose à apprendre aux nations sûres d'elles-mêmes d'Europe de l'Ouest.
Deux réactions, celle de Manon Ombry, qui dit « puissance, prospérité, humanisme, son bilan ». C'est plutôt arrogance, inégalité, hypocrisie. C'est temps à détruire nos industries et services publics et organiser la puissance. 2 heures pour s'en plaindre des effets. Le 9 juin, c'est au peuple de retrouver sa puissance. Et puis une réaction de Mario Maréchal. Emmanuel Macron veut avancer vers un État fédéral européen avec des impôts, des taxes et un endettement européen, un élargissement sans fin, la fin du droit de veto de la France, une armée européenne. Mario Maréchal, dont vous allez parler dans la deuxième partie de cette émission, en posant une question, parce qu'on a abordé la GPA hier avec Charlotte Dornelas. Est-ce que les questions bioéthiques redevenaient, et si les questions bioéthiques redevenaient politique et on se posait les vraies questions. On poursuit, mon cher Guillaume, avec vous. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a par exemple marqué, c'est le fait qu'ils mettent dans le mot crise, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi Mathieu, pardon, le fait qu'ils mettent dans le mot crise Brexit. C'est intéressant quand même, parce qu'il y a le Covid, je comprends, mais le Brexit, c'est une crise.
Deux temps là-dessus, c'est-à-dire d'abord on a dit si les Britanniques quittent c'est une catastrophe, une fois qu'ils ont quitté on n'a pas pu faire autrement, on a dit c'est formidable, ils ont quitté, ils empêchaient, ils nous retardaient, ils nous empêchaient de nous fédéraliser assez rapidement. Au final on finit toujours par dire que la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, c'est une manière de se consoler.
Mais ce qui est étrange c'est le conformisme absolu, parce qu'en réalité quand on regarde la Grande-Bretagne, sa croissance est supérieure à celle de la zone euro. Son taux de chômage est inférieur à celui de la zone euro, il n'y a pas de sauterelle, la Tamise ne s'est pas changée en sang, et toutes les mauvaises choses qui sont arrivées en Grande-Bretagne depuis le Brexit, c'est parce que la Grande-Bretagne, librement, j'insiste, a voulu copier parfois ce que faisait l'Union européenne. Donc ça ne lui a pas toujours été très favorable, évidemment.
Oui, voilà, et puis il a bien cassé le Royaume-Uni sur la décision dont on a parlé d'envoyer les immigrés au Rwanda. Alors, Guillaume Bigot, en matière de défense et de stratégie, le président a évoqué un nouveau paradigme européen de défense. Qu'en pensez-vous ?
Nouveau paradigme, déjà, il faut un peu traduire l'Emmanuel Macron en français, enfin, ce qui n'était pas très, très facile. Parce que nouveau paradigme, bon, c'est un terme extrêmement abstrait. Pour comprendre ce nouveau paradigme, peut-être il y a deux points. On va partir, à mon avis, de la phrase clé, c'est-à-dire « notre Europe peut mourir ». Et en fait, on se rend compte qu'Emmanuel Macron, après avoir reproché à tous les populistes et les nationalistes de la Terre de jouer sur les peurs, en fait, ce qu'il fait pour vendre son Europe, c'est jouer sur les peurs. Il ne fait que ça. Peur du déclassement par rapport aux États-Unis, à la Chine, peur de l'Iran, peur évidemment de la Russie et de la guerre, et peur que les États-Unis nous laissent tomber. Finalement, c'est ça son grand truc. Et c'est parce qu'il y aurait cette peur dans son raisonnement que les Européens, qui ont toujours refusé de faire ce que la France proposait, c'est-à-dire de mutualiser la défense, de faire une Europe vraiment indépendante, de faire une Europe vraiment européenne. Je rappelle que ça a démarré très tôt, cette histoire, ça n'a rien de nouveau. La CED, l'Europe de la défense, ça date de 1954. Et le général de Gaulle a aussi proposé, finalement, à l'Allemagne, en 1963, avec le traité de l'Élysée, de faire une Europe de la défense. Et là, c'était toujours non. Le calcul d'Emmanuel Macron, c'est que la peur va permettre aux Européens de vouloir l'Europe que la France propose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour comprendre ce nouveau paradigme, c'est, on pourrait traduire ça par une sorte de grand bond en avant. C'est le grand bond en avant européiste d'Emmanuel Macron, grand bond en avant de l'Europe vers le militaire, vers le diplomatique. Et là, ça arrange considérablement les affaires de la France en général et d'Emmanuel Macron en particulier. Pourquoi ? Parce que ce grand bond en avant, il impose d'abord un grand emprunt. Ah bah, grand emprunt, c'est bien, puisque demain, il y aura les agences de notation Fitch et Moody's qui vont sans doute dégrader la note de la France. On ne sait pas si on va pouvoir emprunter de quoi boucler nos fins de mois. Si on fait un grand emprunt comme au moment du Covid, cette fuite en avant financière et monétaire, ça va nous arranger. Deuxièmement, cette Europe de la défense, ce grand bond en avant stratégique, ça va mettre de facto, dit-il, la France au cœur de la construction européenne, parce que s'il est question de défense, on a une industrie de défense, s'il est question de défense, on a une armée qui est la plus puissante, et on a l'arme nucléaire, en effet, qu'il veut mutualiser. Et troisième point, ce grand bond en avant vers le militaire et le stratégique, il implique le grand bond en avant fédéraliste qu'il veut réaliser et dont on a abondamment parlé hier et dont il ne faut pas se lasser de dire et de répéter que l'État européen et la disparition du droit de veto, le tout imposé sans référendum, c'est ni plus ni moins que décapiter le peuple français. C'est décapiter, en fait, la République. C'est décapiter la démocratie directe. C'est clair et net. Et donc, il justifie quand même ça en disant « Mais écoutez, ça va être fantastique parce qu'à l'arrivée, on va avoir non seulement une Europe indépendante, une Europe qui se défend toute seule, et on va avoir une Europe puissance. » avec des ambitions mondiales, l'Europe va pouvoir se projeter, etc. Bon, c'est typiquement européiste, c'est-à-dire qu'il entretient l'illusion qu'en voulant des outils, c'est pas la folie de l'européisme, mais là, c'est, on a des outils et les outils vont sécréter le besoin, leur utilisation, voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger, mais si j'ai une fourchette, je sais ce que je vais manger. C'est très bizarre. Et il se pose, effectivement, c'est un programme de futur président de l'Europe en disant « l'Europe puissance, c'est moi ».
On en parle dans un instant, on va marquer une pause pour continuer à bien décrypter avec votre regard européiste, mon cher Guillaume, le discours du président de la République. Et puis avec Charlotte Dornelas, on s'arrêtera sur cette phrase. La haine qu'on entend, ce sont les derniers râles de ceux qui appartiennent à une autre époque. Qui dit ça? On en parle dans un instant. On parlera d'Omar Sy dans un instant et de son entretien avec l'Obs. On parlera de ce génocide en Arménie commémoré tristement hier. Marc Menon nous en parlera. Et puis, si les questions bioéthiques redevenaient politiques, on en parlera avec Mathieu Bocoté. D'abord, revenons sur le discours d'Emmanuel Macron. Et vous nous expliquez cette histoire de paradigme. Alors, je comprends mieux l'intérêt de la France selon le président à lancer ce nouveau paradigme stratégique. Mais je ne saisis toujours pas concrètement en quoi consiste ce nouveau paradigme stratégique d'Emmanuel Macron.
Alors on en revient à ça. C'est vrai que de dire qu'un paradigme découle d'un concept, et il parle de palimpseste.
Pourtant, j'ai son discours. Hein, là, je l'ai pris, je l'ai regardé, je l'ai imprimé.
Oui,
mais c'est vrai. J'ai
mais en fait, c'est une technique. Oui. C'est la technique d'Emmanuel Macron.
J'ai posé
un RTT. Non, je t'en prie. Oh, je vous interromps. Non, je plaisante. Je jouais ça à l'envers. Je venge mes camarades. Non, pardon. Mille pardons.
Je sors, hein, je vous laisse.
Non,
allez-y, mais il va poser les questions.
Mais
je rigole. Bon, alors, ressaisissons-nous.
En fait,
oui, le paradigme stratégique.
Ben oui, c'est quand même curieux de dire je veux faire court et de faire 80 pages, je veux faire clair et concret, et je parle de paradigme, de concept, de palimpseste, etc. Enfin, c'est très bizarre. D'abord, pour comprendre, si on essaye de faire simple, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à son discours de 2017, notamment sur le stratégique. Déjà, il disait, je l'ai repris, l'Europe doit se doter d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun, etc. Alors, il veut simplement aller plus loin. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret, c'est qu'il n'y a rien de décidé et tout est hypothétique. Par exemple, il parle de « on va faire plus d'intimité stratégique entre les armées ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les généraux vont se faire des câlins entre eux, enfin, on ne comprend pas bien. Il veut faire une académie militaire. L'académie militaire, on n'a pas d'armée, on n'a pas de doctrine en commun, il y aura une académie militaire. Il y a un projet de cybersécurité. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, mais quel projet? On ne sait pas du tout. La dissuasion partagée dont parlait Mathieu tout à l'heure, c'est une éventualité à ce stade. C'est quelque chose qu'il a mis sur la table. Le bouclier antimissile, un projet de bouclier antimissile, c'est pareil. Il le dit lui-même, c'est même pas sûr. Acheter et produire en européen, ce qui est peut-être le plus substantiel et la véritable révolution serait là, mais ce n'est qu'une intention à ce stade. Et donc on arrive à une situation typique avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il dit pour des réalités ou pour des décisions. Vous savez, c'est le côté performatif du verbe. Je dis, donc ça devient. Ben non, en fait. Ben non, parce que, M. Macron, vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. Vous n'êtes pas président de l'Europe. Vous n'êtes pas l'Europe à vous tout seul. Vous êtes le président de la République française. Et vous n'avez donc pas le pouvoir de faire advenir un achat européen, des productions d'armement, etc. Donc, si on quitte un instant le principe de plaisir pour arriver dans le principe de réalité, il faut l'unanimité des États, enfin encore. Il faut la Commission européenne qui rentre dans la boucle. Il faut, par exemple, le Parlement européen qui se prononcera, alors même que le parti d'Emmanuel Macron risque d'être minoritaire. C'est irréaliste pour une autre raison, c'est que cette idée que l'Europe va s'emparer du stratégique et du militaire, c'est oublier que le terrain est déjà occupé, si je puis dire. Il y a déjà une puissance impériale qui est là depuis 1945, c'est pas les États-Unis d'Amérique. 80% des achats d'armement opérés par les États européens sont des achats aux industries américaines. 50% du matériel militaire stationné sur le vieux continent est made in USA. Toute la chaîne de commandement de l'OTAN, il parle du pilier européen de l'OTAN, mais c'est quand même l'OTAN. La chaîne de commandement remonte directement à la Maison-Blanche. Il parle de faire de la cyber, du cyber européen. Alors même que par ailleurs, il a bien expliqué que sur le numérique, on ne touchait plus une cacahuète. C'était complètement américanisé. Très bien, les standards. On va faire des standards européens en matière d'armement, de munitions. Mais pardon, mais ça existe déjà. Ça s'appelle les standards OTAN. en fait, c'est les calibres autant. Le bouclier antimissile, ah bah, c'est encore un très bon exemple, le bouclier antimissile. Parce que figurez-vous, monsieur le Président, que ça existe déjà. C'est juste un projet américain qui inclut l'Allemagne et qui exclut la France. Donc peut-être que vous pouvez demander, lever la main, de savoir si vous avez l'autorisation d'y rentrer. Et il nous explique que, ah oui, il faut avoir peur parce que peut-être monsieur Trump va arriver aux affaires. Bon, moi, il ne faut pas s'aventurer. Parce que d'abord, il n'est pas encore élu, monsieur Trump. Et si d'aventure, il était élu... Moi, il me semble, pour avoir lu Trump dans le texte, The Art of the Deal, qui va probablement dire aux Européens, je vais partir. Comme ça, vous allez mettre la main au porte-monnaie et payer votre propre défense, ce qu'il veut faire. Ça m'étonnerait qu'il parte. Ce serait, à mon avis, pas du tout dans l'intérêt stratégique des États-Unis. Et si d'aventure, hélas, trois fois hélas, la Russie venait à s'emparer de l'Ukraine et faire tomber l'Ukraine, on pourrait être très surpris d'apprendre, probablement un matin, que la Pologne, en européen, se partagerait sans doute ce qui reste de l'Ukraine, en européen, avec la Russie. Et en européen, demain matin, je mets mon billet aussi, que si la Russie gagne, l'Allemagne va racheter assez rapidement du gaz à la Russie. Mais enfin bon, peut-être qu'on va trop loin. Donc vous voyez, tout ça, est vraiment, ça manque complètement de substance.
Alors vous dites qu'il n'est pas réaliste au sujet de la puissance européenne. Et pourtant, au début de son discours, Emmanuel Macron a dressé un diagnostic assez sévère sur le sujet.
C'est très juste. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étrange. C'était souligné d'ailleurs par Manon Aubry, et elle a complètement raison. Je pense que Emmanuel Macron se montre extrêmement critique, en fait, à l'égard de la construction européenne. Et donc assez lucide. Il est presque souverainiste. En économie, il dit par exemple, l'Europe, elle réglemente trop, elle investit pas assez et elle est trop ouverte au plan du libre-échange. Bah, qui le dites-vous ? Oui, mais c'est à cause de qui ? Précisément, à cause de l'Europe. Donc l'Europe, effectivement, elle est trop naïve, monsieur le Président, vous avez complètement raison. Le plan de relance, en plus, il joue petit bras, 750 milliards sur la table, alors qu'il y a beaucoup moins d'Américains qu'il y a d'Européens. Les Américains, ils ont mis 1900 milliards sur la table. Oui, la BCE, elle ne sert qu'à lutter contre l'inflation, à maintenir des rentes et pas du tout à investir. Tout ça, on est complètement d'accord, mais la faute à qui ? Et là où c'est vraiment complètement contradictoire, cette histoire, c'est qu'il dit finalement, l'Europe ne marche pas, et donc, puisque l'Europe ne marche pas, eh ben il faut plus d'Europe. Alors excusez-moi, mais ça ressemble vraiment à la définition de la folie par Einstein. La folie, dit Einstein, c'est de vouloir toujours plus de la même chose et d'en attendre autre chose. On ne comprend vraiment pas. Et donc, si on suit son raisonnement, on est trop européen. Et moi, je pense que c'est non seulement l'indépendance de l'Europe qui a été abîmée par la construction européenne elle-même, paradoxalement, mais en particulier pour la France. Qui a abîmé notre souveraineté énergétique nucléaire, sinon les projets de l'Europe ? Qui a abîmé notre souveraineté française agricole, sinon l'Europe ? Qui a abîmé notre souveraineté sanitaire, sinon l'Europe ? Et là, la réponse qu'il a, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement celle d'un technocrate français qui rêve de transposer la puissance américaine en disant pourquoi on n'a pas une DARPA européenne, pourquoi on n'a pas le commandement asiatique, le commandement africain, comme là l'armée américaine. Qui a vu le département américain de la défense financer nos start-up ? Mais attendez, monsieur Macron, les États-Unis, on vous explique, c'est pas un continent, d'accord ? C'est une nation, c'est une démocratie, c'est un peuple, c'est un gouvernement. C'est peut-être pour ça que ça marche, les États-Unis. Donc c'est pas en 10 ans ça que ça va fonctionner. Et alors, quant à ce discours historique qui va rester dans l'histoire, je ne sais pas s'il y aura des historiens demain à ce rythme. Non, parce que les PIEX ont été très structurants, je cite, les PIEX ont été très structurants. Les PIEX, c'est les projets d'intelligence environnementale. Il faut les resynchroniser. Autre phrase historique qui mérite de rester pour des siècles et des siècles, il faut créer une Europe de la libre circulation des électrons décarbonés. D'accord ? Donc tout ça est absolument surréaliste. Et en fait, le grand bond en avant du président Macron européen, ça fait penser à cette blague qui circulait au sujet des maoïstes dans les années 70. Il disait, le président Mao est au bord du gouffre. Le président Mao est au pied du mur et le président Mao s'apprête à faire le grand bond en avant. Voilà. C'est ce que nous propose Emmanuel Macron, se débarrasser de la démocratie, de la République, de la France, pour faire quelque chose qui est, à mon avis, complètement vaseux.
Qui veut réagir ? Charlotte, peut-être ?
Non, j'ai écouté attentivement mes camarades.
Mais c'est déprimant.
J'ai trouvé ça trop long, moi, c'est ce que j'ai dit.
Oui, oui.
Beaucoup trop long.
Oui, oui.
Non, mais ouais, c'est terrible, parce que quand on se sent... La fibre culturelle, c'est important quand même, que l'on aime la langue, que l'on voit comment il sabre la langue. De temps en temps, il fait le finot en utilisant palimpseste, comme si c'est pour dire, voyez, je possède quand même une culture que n'ont pas les autres, ça sert strictement à rien d'utiliser ça. Enfin bon, c'est consternant, et puis ça fait peur, parce que ne plus se sentir français... C'est quand même ce qu'il nous donne comme image.
Charlotte dit que c'est trop long.
C'est ce que disait Mathieu.
Et ça fait penser à cette formule d'un journaliste, je crois que c'était Claude Imbert, qui disait « Quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller.
» Il rebondit toujours, il est très très fort.
En tout cas, je retiens où est la France, hein, dans tout ça. Alors, on va partir avec vous, Marc Menant, dans la journée d'hier, qui se poursuit aujourd'hui, puisque depuis hier, ce sont les commémorations du génocide arménien. Hier, le 24 avril 2015, je disais en titre, 600 notables arméniens sont assassinés à Constantinople sur ordre du gouvernement. Un génocide qui coûtera la vie à 1 200 000 personnes, c'est-à-dire les deux tiers des Arméniens de l'Empire ottoman. 109 ans plus tard.
Oui, toute la chronique de Mathieu nous a rappelé ce qu'était l'identité culturelle. Comment un peuple se sent porté par une âme, par un désir de vivre en ayant une sorte de transcendance, quelle qu'elle soit.
Comme Israël, là, comme l'Ukraine, par exemple.
Pardon. Voilà.
Je voulais le dire déjà quand vous parliez tout à l'heure.
Et il a utilisé à la fin de la chronique l'expression « la domination subie ». Il faut avoir la domination subie. Eh bien, c'est ce que l'on a demandé à ce peuple arménien pendant des siècles, des siècles et des siècles. Ce peuple qui était en étau, il y avait la Russie, il y avait l'Asie, il y avait enfin toutes les puissances autour de lui. Et pour autant, eh bien, les uns et les autres arrivaient à se maintenir. Et même dans le catholicisme, dans la chrétienté, ils avaient une différence. Dès 374, ils se mettent en rupture avec l'Église romaine. Ils ont leur patriarche. C'est dire cette identité qu'ont les Arméniens, ce désir de se sentir dans un souffle commun. Et ça, c'est magique en soi. Alors, le drame de 1915, quand je dis le drame, l'épouvante, le cataclysme de l'horreur, il commence bien avant. Il y a ces frontières parfois fluctuantes qui sont liées à ces guerres qui se livrent autour d'eux, dont ils sont les principales victimes. Bondissons tout de suite au début du 19e siècle avec la Russie qui conquiert le Caucase. Alors, il y a dans cette conquête une petite partie de l'Arménie, l'Arménie de l'Asie, qui se retrouve sous le joug des Russes. Et pour l'Arménie, qui se trouve au contraire en Turquie, il y a une sorte d'espoir. Pourquoi ? Parce que les Russes disent « nous sommes les protecteurs de tous les chrétiens ». Et là, eh bien, ceux qui sont en Turquie, qui subissent le joug des Ottomans, se disent « mais peut-être que l'on va pouvoir réunir notre peuple et nous retrouver avec une nation, monsieur Macron ». Avec le plaisir, le désir de vivre ensemble, de ne plus être d'Edimi. C'est quoi l'Edimi ? Eh bien, ce sont ceux à qui, théoriquement, l'islam accorde le droit d'existence, de liberté, mais en étant quand même en dessous du musulman. Donc, c'est celui qui subit. Voilà ce qui se passe dans ces années-là. On n'a pas le temps de tout détailler. C'est d'une richesse invraisemblable, ce parcours des combattants arméniens. On peut dire combattants, parce que constamment, il y a comme ça des escarmouches. Ils se dressent contre le pouvoir. Et ils sentent, quand ils voient l'amenuisement de la force ottomane, cette force ottomane qui a été jusqu'à nous menacer en Europe, qui a gagné tout le bassin méditerranéen et qui est obligée d'entrer dans la conciliation. Et là, il crée deux partis révolutionnaires. On pourrait dire, de façon métaphorique, allons camarades, nous allons enfin pouvoir y parvenir. Dressons-nous contre l'autorité qui nous domine. L'autorité, c'est le sultan. Il s'appelle Abdulhamid II. Et Abdulhamid II, il a une férule très vive vis-à-vis de ce peuple, mais il semble bien qu'il lui faut lâcher un peu de l'étau. Et il va y avoir des massacres consécutifs. Parce que quand il voit qu'il est obligé de céder, de temps en temps, il fait intervenir d'autres peuples qui, comme les Kurdes, se servent de la situation pour essayer de gagner quelques influences sur les terres qui appartiennent aux Arméniens. Et en 1876, il y a déjà donc une première révolte. En 1890, il y a un mouvement qui conduit à un premier génocide, si je puis dire. Il y en aura un deuxième en 1908 avec
les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs font tomber le sultan. Quel espoir! Ils se sont associés à cela parce qu'ils leur ont dit: vous ne serez plus les dominés. Vous aurez votre autonomie. Alors forcément, ils se sont engagés dans le combat à côté de ces jeunes Turcs. Il y aura une contre-révolution et ils la payent d'un génocide de 30 000 hommes. Et puis, il y a la guerre de 1914. Le sultan a regagné sa place. Les jeunes Turcs sont là aussi. Et dans cette histoire, eh bien, ils se retrouvent prisonniers. D'un côté, il y a les Arméniens qui sont face aux Ottomans, et puis les Arméniens qui sont face aux Russes. Tout ça, ça s'oppose. Et en 1915, les décisions sont prises. Ceux qui sont dans l'armée ottomane, eh bien, il faut les éliminer. Alors, on tire d'abord sur ces pauvres soldats qui faisaient peut-être à contre-cœur le métier qu'on leur demandait. Et puis, il y a ce que vous avez dit, à Constantinople, les intellectuels, les notables qui sont éliminés. Tous les hommes de plus de 18 ans passent à trépas. Femmes, vieillards, enfants, on les emporte. Dans les sinistres, c'est déjà l'esquisse de ce que se manifestera en 1940. Dans les wagons à bestiaux, destination, le désert de Syrie. Et là-bas, ce qui les attend, c'est la famine. C'est comment mourir à petit feu quand on n'est pas exécuté. Il y aura 1 200 000 victimes. Voilà la sinistre destinée de ce peuple arménien qui de temps en temps a eu quelques compassions qui ont été manifestées par les autorités occidentales, mais les traités à la fin se faisaient toujours à leurs dépens et aujourd'hui ils rêvent encore. Attise l'espoir. Pour combien de temps ?
Merci beaucoup, Marc Menant, pour cette plongée dans l'histoire qui retentit dans le présent. Pensez à tous ces Arméniens. Charlotte Dornelas, une autre page de l'actualité. Omar Sy accorde une interview, grande interview à l'Obs. C'est une phrase à circuler sur les réseaux sociaux dans laquelle il parle de la situation en France comme d'un mauvais moment à passer. Est-ce encore une prise de parole très politique de l'acteur?
Alors, en fait, il y a plusieurs acteurs, on va dire, dans cette sortie d'Omar Sy. Il accorde une interview, en effet, à l'Obs parce qu'il y a une journaliste de l'Obs qui a fait un livre d'entretien qui est un peu autobiographique avec Omar Sy. Donc, vous avez les bonnes feuilles également dans l'Obs. Et cette phrase n'est pas issue de l'interview, mais du livre d'Omar Sy. Et elle a été sortie par certains sur les réseaux sociaux en précisant, voilà, ça vient de l'Obs, par certains journalistes, hein, c'est des comptes officiels, comme étant un résumé finalement de l'interview. Et quand on lit l'intégralité du dossier, quand je dis il y a plusieurs acteurs, il y a un, l'interview, ce que dit Omar Sy, il y a les bonnes feuilles du livre, hein, je n'ai pas lu le livre en entier, mais j'ai lu les bonnes feuilles, il y a déjà deux tons assez différents entre les deux, et il y a la prise de parti, on va dire, de l'Obs lui-même, dans la manière dont il présente cette interview, dans l'édito qui l'accompagne, et vous allez voir, il y a beaucoup de contradictions chez tous les acteurs en présence dans cette affaire. Alors, dans l'interview à proprement parler, l'acteur prend une distance totale par rapport aux questions politiques. Il s'échappe à chaque fois qu'on lui pose cette question en expliquant qu'il ne veut pas aller sur ce terrain-là, qu'il ne veut pas faire de politique. Il dénie vouloir participer au débat politique. Alors, et il refuse même de préciser son inquiétude, par exemple, à la montée de l'extrême droite. C'est une question qui revient souvent parce qu'il s'attarde dessus dans son livre, et il répond tout simplement, il dit « La seule chose que je peux vous dire, c'est que mon optimisme est mis à rude épreuve en ce qui concerne la France. » C'est évidemment une manière de répondre, mais sans y répondre, sans s'engager complètement. Et dans le livre, en revanche, il le fait complètement, on le comprend dans les bonnes feuilles, et on le comprend dans l'insistance surtout de l'Obs à essayer de lui faire ressortir ce qu'ils ont lu dans le livre. Il dit qu'il se borne à réagir quand quelque chose le touche et qu'il a des sentiments sur ce qui arrive. C'est comme ça qu'il a parlé de George Floyd, puis de Naël. C'est les deux exemples qu'il prend lui-même pour lui dire qu'évidemment, réagir à cela. Il dit d'ailleurs, certains me reprochent aussi ce que je ne dis pas, mais je n'y prête pas attention. c'est moins qu'un reproche. On peut constater que ne réagir qu'au moment de la mort de Naël, étant donné le nombre de jeunes qui meurent aujourd'hui en France dans différentes raisons, c'est prendre parti politiquement, pas de manière partisane, mais politiquement, c'est indiscutable. Alors la phrase qui a circulé, vous le disiez entièrement, elle dit « Quand je pense à la France, je me dis que c'est un mauvais moment à passer. Ceux qui nous empêchent d'avancer sont ceux qui veulent conserver leur monde dépassé. Ils sont en train de vieillir, ils sont à l'agonie. La haine qu'on entend, ce sont les derniers râles de ceux qui appartiennent à une autre époque. Alors je dis que c'est un mauvais moment à passer, je suis un optimiste. » Alors ça, si c'est pas une phrase extrêmement politique sur la situation en France, je sais pas ce que c'est. Et en l'occurrence, Omar Sy parle également dans cette interview, comme dans les bonnes feuilles. Il parle, il prône un monde ouvert. L'Obs le décrit comme un citoyen du monde. Il est, lui, français. Il a grandi à Trappes. Et il dit lui-même que ses enfants sont américains. Il ne l'imaginait pas initialement. Et ses parents, en l'occurrence, sont sénégalais. Mais je note qu'au moment d'inscrire ses enfants dans une autre filiation historique et culturelle, il choisit les États-Unis. Personne n'est reparti au Sénégal. Donc l'Obs nous le présente aussi comme très fier de ses origines, sans qu'elle ne tienne place dans le discours de Omar Sy lui-même, puisque la seule origine, on va dire, qu'il détaille dans cette famille, dans cette interview, c'est l'histoire de sa famille. Il nous explique que son père, qui est arrivé en France, était initialement marié à une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant. Donc il a pris une deuxième femme sous son toit. Donc son père, en l'occurrence, était polygame. Il rapporte, et l'Obs ne réagit pas et simplement dit qu'il se confie sur sa famille. Enfin, il n'y a aucune réaction là-dessus. Et il parle ensuite de son enfance à Trappes qui était heureuse. Et tout le monde est venu, et il raconte sa tante, enfin je ne veux pas me tromper dans la famille, mais sont venus en France pour tenter leur chance. Et quand on lui demande, pour aller sur le terrain des origines, quand on lui demande ce que ses parents lui ont transmis, il répond, ouvrez les guillemets, « Du côté de mon père, le respect du clan, c'est-à-dire de ceux qui nous précèdent, ce CEUX, et pour ma mère, le respect de l'enfant intérieur que chacun garde au fond de soi. » Très bien, bon, là c'est évidemment sur ce terrain-là la réponse par rapport au père qui m'intéresse, parce que c'est probablement la réponse, sans le mot « clan », qui est assez marqué, que feraient beaucoup de Français accusés de haine quand il s'agit du rapport à leur pays, c'est-à-dire garder une place au présent à ceux qui nous précèdent, précisément dans la manière de vivre et donc de transmettre cette filiation culturelle. Et en l'occurrence, on les accuse de haine. Quand on parle de fierté des origines, je note que revendiquer d'être fier d'être français, d'être heureux et d'être fier de porter cette histoire-là, c'est déjà borderline dans le discours public. Donc là, il y a une injustice, on va dire, dans le mode de traitement. Et par ailleurs, que certains enfants d'immigrés, et c'est quelque chose dont on parle souvent, veuillent préserver leurs origines, veuillent même les revendiquer, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est même impossible de faire autrement. Ces origines existent. C'est évidemment l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents qui les ont précédés pour eux-mêmes. Simplement pour qu'il y ait quelque chose de commun. Pour que nous puissions vivre ensemble, il faut qu'il y ait un modèle qui prédomine dans le collectif, pas de manière individuelle, mais dans le collectif, qu'on se retrouve ensemble sur quelque chose de commun. Il est assez naturel qu'en France, ce soit les origines françaises sur le terrain culturel s'offrent par ailleurs à tout, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, puisque la proposition qui est faite et qui est vilipendée, c'est d'agréger des personnes précisément à cette culture et à cette histoire-là. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a des pays où vous pouvez vous pointer, personne ne va vous agréger à rien. Je referme la parenthèse. Et par ailleurs, on en revient toujours au même, si des personnes viennent tenter leur chance en France, puisque c'est comme ça que c'est présenté dans cette famille-là, c'est donc bien que la France, initialement, est vue comme une chance. Si on vient tenter sa chance, c'est précisément que la France est une chance. Et alors, par quel miracle, en arrivant en France, immédiatement, cette chance est oubliée et même inversé, et ça n'est pas la seule contradiction qu'on voit dans les propos de l'acteur et dans la manière surtout dont cette interview et ce livre sont présentés.
Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces échanges en particulier ?
Alors, d'abord, je vous le disais, le refus de considérer comme politique un propos qui est politique au sens très large, c'est tout ce qui concerne en effet la vie de la cité, les organisations, les débats. Les débats sont politiques et il dit, alors il donne un exemple très parlant, il explique que quand il tournait une série sur la place Vendôme, Éric Dupond-Moretti est descendu lui serrer la main. Il a dit « Je suis pas un morceau de viande. Moi, je ne veux pas aller à l'Élysée parce que ça, ce serait politique. Alors que donner mon avis sur certains sujets, ça ne l'est pas. » Non, aller à l'Élysée, d'abord, c'est pas nécessairement politique, peut-être moins que certaines prises de parole. Mais simplement, là, en l'occurrence, s'afficher avec telle ou telle politique, c'est en l'occurrence partisan, moins que politique. Là, il y a une confusion. S'engager dans le débat politique, mais par ailleurs, c'est pas insultant ou c'est même pas un reproche de ma part. C'est simplement que son propos, quand il donne son avis sur l'état des lieux politiques, sur les débats qui sont en cours en France, il participe du débat politique. Ensuite, il y a trois déclarations, voire même une quatrième, mais un peu à part, qui ont retenu mon attention. Un, il évoque le vol, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans l'interview, mais peu importe, le vol perpétré par des jeunes sur le tournage de Lupin. Vous savez, il avait tourné cette série-là et il s'était fait braquer pendant le tournage dans une banlieue. Et il répond, il écrit dans son livre « Je ne comprends pas ces petits, ça me dépasse ». Et il réagit à ça dans l'interview, il dit « J'ai plus de 40 balais, la banlieue que j'ai connue, même si elle reste ma base, n'existe plus et les codes qui étaient les miens ne sont plus les mêmes ». Il répond à ça. Quand on lui parle de jeunes qui ont braqué un tournage, on ne lui parle pas de jeunes qui ont fait quelque chose de positif en l'occurrence. Donc il est en train de dire lui-même, ce qu'il finit sa réponse en disant « Pour comprendre la banlieue aujourd'hui, il faut aller parler aux gamins de 15 ans, pas à moi ». Ce qui est compréhensible en l'occurrence. Mais il constate lui-même, en racontant une enfance heureuse à Trappes, que la banlieue a changé à partir de l'exemple d'un vol et d'un braquage sur un tournage. Donc si il faut aller parler aux gamins de 15 ans pour comprendre la banlieue, c'est-à-dire comprendre ce qu'elle est devenue, en l'occurrence à partir d'un exemple négatif. Peut-être est-il accessible d'essayer d'aller parler aux gens qui s'inquiètent précisément de ce qu'est devenu la banlieue depuis qu'Omar Sy était un gamin. Or, ces gens-là aussi sont accusés de haine par le simple fait de poser la question de ce que sont devenus une partie de ces banlieues, ce qu'il constate lui-même. Donc là, encore une fois, on voit une certaine contradiction. Ensuite, il y a la question du rapport à la couleur de peau. Il se décrit à la fois, quand il se décrit, dit « j'ai grandi à Trappes, de père sénégalais, je suis noir et musulman ». Il regrette aussi qu'on le ramène à ça dans son livre, c'est une partie importante, tout en déclarant aussi dans l'interview « c'est un fait, le fait que je sois noir, c'est un fait, j'en fais une force ». Il parle notamment dans le rapport au cinéma. Quand on lui parle de son faible, je cite le mot de Lopes, pour Christiane Taubira, il répond « j'aime son verbe, son bagage intellectuel, son parcours de femme et de femme noire ». Mais là, en l'occurrence, c'est lui qui précise que c'est son parcours de femme noire. J'imagine qu'il y a d'autres femmes noires qui ont d'autres parcours aussi brillants, mais sur d'autres terrains politiques, qui ne provoqueraient pas la même admiration. Donc qu'est-ce qui exactement, chez Christiane Taubira, attire son attention? J'aurais aimé poursuivre la question. Quand on parle du débat sur Aya Nakamura qu'il y a eu en France ces derniers jours, il regrette qu'on en soit encore à un débat pareil en France. Là, encore une fois, il ne veut pas aller sur le terrain, il ne veut pas rentrer dans le fond du sujet, mais il dit « c'est incroyable qu'on en soit encore à un débat pareil alors qu'elle a un talent indiscutable que je salue ». Mais donc, il n'y a aucune place laissée au fait qu'il y ait un débat possible sur ce qu'elle incarne culturellement, puisque, en l'occurrence, ce débat-là existait. La troisième chose, il assimile certains de ses désaccords politiques à de la haine, hein, puisqu'il s'inquiète notamment de la montée de l'extrême droite. Éric Zemmour prend une grande place dans son livre. Et il a une réponse étonnante quand il évoque Intouchable. On lui parle du succès du film. Je note qu'au moment d'Intouchable, Omar Sy, le film est propulsé au box-office comme jamais. Omar Sy devient à ce moment-là personnalité préférée des Français, en tout cas parmi les personnalités préférées des Français, ce qui est toujours le cas. Et à l'époque, il n'a pas de prise de position comme ceux dont on vient de parler. Et il n'y a aucun débat sur Omar Sy. Il est juste plébiscité comme acteur. Là, encore une fois, je referme la parenthèse. Et il dit à propos de ça. Ce film est atemporel, mais il se date aussi par rapport à la liberté qu'on avait, qu'on a moins. Je vois tout ce qu'on a perdu en 10 ans. La légèreté de ce film, on ne la retrouverait pas si facilement. Je me demande pourquoi on ne ferait plus les mêmes vannes aujourd'hui. Il y a hélas beaucoup plus de verrous ou de censeurs. Je note à ce propos que souvent la censure est légitimée, l'appel à la censure est légitimé parce qu'au préalable, on a accusé les gens que l'on veut censurer de haine et non pas de désaccord. Donc là, encore une fois, j'y vois une contradiction, en tout cas par rapport à la manière dont des opposants politiques, ce qui est son plus grand droit, hein, d'être en désaccord absolu avec certaines personnes, sont présentés simplement comme les garants de la haine, qui sont à l'agonie, qui appartiennent à une autre époque, etc. Et alors, il y a une phrase qui m'a franchement étonnée par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est qu'il raconte que quand il était petit, il imitait son père. On lui parle de son rapport à Dieu. Il disait « je faisais la prière parce que je faisais comme mon père. Je réparais ma moto ou mon scooter parce que je faisais comme mon père ». Et il dit « l'adolescence a mis un coup d'arrêt à ça ». Il a eu une adolescence un peu tumultueuse apparemment. Et il dit « c'est la phase où j'étais un peu con, un peu vénère. Aucune autorité ne pouvait s'imposer. Tout le monde était raciste, même le Coran ». Donc il est en train de nous expliquer que c'est une époque où ça n'allait pas, en gros, où pendant son adolescence, il faisait des bêtises. Et l'excuse qu'il avait trouvée au fait de ne pas s'en sortir, ce qui lui a passé par la suite, c'est que l'excuse qu'il avait trouvée, elle était extérieure à lui, c'est que tout le monde était raciste, donc plus aucune autorité ne pouvait s'exercer sur lui. Or, c'est un débat, là, pour le coup, on aimerait l'entendre. Qu'est-ce qui a changé ? À quel moment s'est-il dit, finalement, tout le monde n'est pas raciste ? À quel moment a-t-il pu avoir un succès dans un monde où, précisément, il imaginait qu'il n'avait aucune place parce que tout le monde était raciste ? Et le passage de l'un à l'autre, là, encore une fois, j'aurais aimé poursuivre la question, parce que je pense que là, il a un discours qui pourrait intéresser beaucoup de jeunes qui sont restés au stade où il était au moment de son adolescence. Mais par ailleurs, en expliquant certaines autres choses dans son rapport, précisément, au pays, à la critique et à la question identitaire du pays, on a l'impression que là, encore une fois, c'est extrêmement contradictoire.
Vous évoquiez tout à l'heure le journal également et vous voyez dans le traitement du sujet des contradictions. Dernière question.
Oui, et en réalité, un engagement politique, là, et militant, bien plus prononcé dans l'apport, on va dire, de l'Obs que dans l'interview d'Omar Sy elle-même. Ça, c'est sûr. Et on a une phrase qui dit « Celui qui fait la couverture de notre magazine cette semaine, c'est dans l'édito, est d'ailleurs la cible régulière des réactionnaires, agacés du succès de cette star œcuménique qui ne cache rien de ses convictions progressistes et antiracistes. » Donc déjà, il est présenté comme fuyant la question politique, mais par ailleurs, il a des convictions progressistes et antiracistes, c'est son droit le plus strict. Mais quand on a des convictions, on accepte dans un État démocratique qu'il y ait des convictions qui s'opposent aux nôtres et qui génèrent donc un débat. Donc soit il y a un engagement, soit il n'y en a pas, mais il va falloir choisir. Et par ailleurs, il est la cible parce que les gens, réactionnaires en l'occurrence, seraient agacés du succès de la star. Ça n'a jamais été un débat. Et ensuite, il y a un truc magnifique. Il dit, en 10 secondes, s'il exprime pleinement la fierté de ses origines, c'est pour mieux contester dans le même temps toute assignation identitaire, bien loin des prêcheurs de haine obsédés par les questions identitaires. Plus loin, même texte. Les immigrés comme leurs descendants, qu'ils soient français ou étrangers, ne sont pas un groupe à part. Et enfin, on conclut, il nous faut reconnaître l'apport nécessaire de l'immigration. Alors moi, il faudrait savoir en fait, soit les immigrés, qu'ils soient français ou étrangers, ne sont pas un groupe à part, soit ils sont un groupe à part, et en l'occurrence pour s'en féliciter, mais c'est une essentialisation aussi. Mais là encore, il faut choisir. Soit on a des individus dont certains s'assimilent, certains reculent, certains s'en vont, certains ont des convictions, d'autres en ont d'autres, soit l'immigration est un bloc, et donc on peut discuter de ce bloc, c'est en l'occurrence ce qu'ils font, tout en prétendant faire le contraire.
En tout cas, derrière toutes ces contradictions, on a envie d'en savoir plus. Invitez-le au JDD,
exactement.
Par exemple.
J'aimerais beaucoup.
Non, moi, on est en famille, moi, j'ai peur de tout le monde. Mais vous, au JDD...
Non, c'est ce que je disais, en lisant l'interview, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre la discussion, en tout cas.
Le message est lancé pour Omar Sy, pour en savoir un peu plus, on aimerait en savoir plus. Dernière question, Mathieu Bock-Côté. La polémique qui a traversé la journée d'hier, qui se poursuit encore aujourd'hui avec Marion Maréchal, la JPA, ramène les questions bioéthiques au cœur du débat public. Question ? Est-il possible, est-il permis que ces questions de ne pas embrasser le point de vue progressiste, de confesser quelques petites réserves devant ce qu'on nous présente comme des évolutions fondamentalement positives, est-ce que c'est permis d'en parler et d'en parler politiquement ?
Alors la réponse est très simple, c'est non. C'est-à-dire que c'est une séquence fascinante, parce que je redonne les événements très rapidement. Marion Maréchal dit « Où est la maman ?» C'est tout. Pose une question qui est une question qui, factuellement, n'est pas sans intérêt dans un pays où la GPA est condamnée. Théoriquement, ça peut être une question légitime. Immédiatement, qu'est-ce qu'on voit ? Le discours médiatique obligatoire s'enclenche. La machine est lancée. On voit très rapidement ce qu'il faut dire dans l'espace public pour être coopté cette journée-là, pour faire partie du troupeau des lyncheurs, pour soit aussi avoir le privilège de lancer sa pierre sur Marion Maréchal et ainsi être humaniste. Parce que quand on participe à une lapidation médiatique du réactionnaire, on est un humaniste. Donc, première étape. Deuxièmement, donc le discours obligatoire est là. Pourquoi est-il obligatoire? Parce qu'on nous explique que toute remise en question de ces évolutions dites sociétales, c'est un propos haineux. Pourquoi c'est un propos haineux? Parce qu'apparemment, si vous questionnez, par exemple, la GPA, c'est une attaque directe contre l'identité des personnes qui ont fait recours à la GPA. Donc, vous êtes haineux. Si vous êtes haineux, il ne faut pas écouter votre parole, il faut au mieux l'interdire. On devrait la stigmatiser et peut-être, pourquoi pas, l'interdire tout simplement. On nous répète sans cesse que la haine n'est pas une opinion légitime. Très bien. Mais le réel ressurgit de temps en temps. Le réel, qu'est-ce que c'est? Mais c'est cette carcasse anatomique, bizarre, biologique, ancienne, un corps féminin, dont on a un peu besoin, tant que l'utérus artificiel n'est pas là, pour fabriquer un bébé. Je ne sais pas comment le dire. Or, mentionner le réel, c'est la suprême audace, c'est la suprême outrance, c'est le vrai blasphème. Comment mentionner ce qu'on n'a pas le droit de mentionner? Il faut frapper. Et même, on a vu la porte-parole du gouvernement, Mme Thévenot, être complètement désarçonnée. Moi, c'est une séquence qui est assez gênante pour elle. C'est une femme intelligente, pourtant. D'un côté, elle dit c'est la honte, c'est la haine, tatata, et au même moment, elle se dit favorable aux lois que vient de soutenir la dite Marion Maréchal. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière ça? C'est tout simplement, est-ce qu'il est encore possible d'avoir un débat politique sur des questions bioéthiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Les débats, derrière les débats bioéthiques, il y a des conceptions de l'être humain, il y a des anthropologies, des différentes manières de penser l'être humain. Est-ce que l'être humain est un individu, on pourrait dire des affiliés qui cherchent à s'autoproduire, à s'autocréer? Est-ce que c'est un être qui s'inscrit dans une filiation familiale ou politique ou culturelle, et ainsi de suite? Ces conceptions de l'être humain sont vraiment contradictoires. À l'échelle de l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très neuf. C'est-à-dire, personne n'a pensé à ça dans l'histoire humaine, cette espèce de renversement, d'abolition de la filiation. Donc là, on pourrait avoir au moins un débat. Mais comme dans tout moment révolutionnaire, on abolit le débat et on cherche à condamner, à traiter comme le bois mort de l'humanité, comme les vieux débris de l'humanité, ceux qui ne pensent pas selon la nouvelle révélation, selon la nouvelle orthodoxie, on les condamne à la mort sociale ou à tout le moins on fait tout pour ça.
Ces questions touchent souvent les enfants. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution de nos sociétés?
Et vous avez raison, ça touche parce que, pensez par exemple, parce qu'en tant que tel, que toute personne adulte soit capable d'aimer les enfants, personne n'en doute un instant. Ce n'est pas la question ici. Ce dont on parle, c'est par exemple le sacrifice de la figure du père et de la mère dans la culture, remplacé depuis 10-15 ans déjà par parent 1, parent 2. On a désymbolisé ça. Alors, l'effet pour les enfants, est-ce qu'on s'est demandé ce que ça voulait dire pour des enfants, cette espèce de sacrifice des fonctions paternelles et maternelles classiques, et, anthropologiques, traditionnelles? On ne se l'est pas demandé. On a inversé le rapport au monde, on a considéré que c'était secondaire. Et déplaçons-nous sur un autre registre. Quand on parle aujourd'hui de tous les débats sur l'identité de genre, la destruction programmée de l'identité sexuelle des jeunes générations, mais qu'est-ce qu'on voit derrière ça? On traite la jeune génération sur le mode des enfants cobayes, en fait. Ce sont les cobayes, c'est la nouvelle figure de l'homme nouveau. Et je terminerai avec une phrase qui synthétise tout ça. Vous savez, en Allemagne de l'Est, il y avait quelque chose d'intéressant. On disait qu'il faut maximiser les libertés de mœurs, entre guillemets, parce que ça permet à l'homme de s'investir pleinement là-dedans et ça le détourne des libertés politiques, des questions politiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la maximisation de l'innovation sociétale est une manière aussi, donc les êtres humains se jettent là-dedans avec passion, ça devient la seule question légitime et ça les détourne des vrais débats politiques.
Merci Mathieu, merci à tous. Chacun son avis à l'intérieur de la loi. Allez, l'heure des pros 2, tout de suite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.